Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Êtes-vous favorable à la sortie du nucléaire? Cette question, vous avez jusqu'au 18 mars pour y répondre, en votant, mais pas dans le cadre d'un référendum. Il s'agit d'une votation citoyenne organisée par la France Insoumise, ouverte aux plus de 16 ans, sans condition de nationalité. Alors, les bureaux de vote virtuels et physiques ont été ouverts hier, une date qui ne doit rien au hasard, puisqu'il y a 7 ans, le 11 mars 2011, un tremblement de terre frappait le Japon, provoquant la catastrophe de Fukushima. L'ancien Premier ministre japonais, Naoto Kan, en poste à l'époque, est d'ailleurs en France cette semaine. Alors, il y a peu de chances que l'initiative du parti de Jean-Luc Mélenchon trouve un prolongement politique sous forme de référendum, mais elle s'inscrit, cette initiative, dans un moment où le nucléaire fait à nouveau l'objet de discussions officielles en France. Ainsi, le débat public national sur la programmation pluriannuelle d'énergie, la PPE, qui doit débuter lundi prochain. Ainsi, cet autre débat national sur la gestion des déchets, prévu pour le mois de septembre. Ainsi, enfin, la commission d'enquête parlementaire qui vient d'être mise en place à l'Assemblée nationale sur la sûreté et la sécurité des centrales. Alors, nucléaire, y a-t-il matière à débat? C'est cette question dont nous allons discuter ce soir. Et je précise qu'il ne s'agit pas de faire une émission pour ou contre le nucléaire, mais plutôt de s'interroger sur la nature du débat et les thèmes qui sont débattus en France aujourd'hui sur cette question. Et nous allons le faire en compagnie de trois invités. Cézine Topchou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et sociologue des sciences, chargée de recherche au CNRS. Et vous avez publié aux éditions du Seuil, c'était en 2013, « La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée ». Pour discuter avec vous, Jean-Pierre Pervez, bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur du CEA Saclay, le centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ancien président, par ailleurs, du groupe de réflexion sur l'énergie de la SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire. Et puis, troisième invité, l'étant duplex des studios du Parlement européen à Strasbourg, il s'agit de Michèle Rivasi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée européenne pour Europe Écologie Les Verts et cofondatrice de la CRIRAD, Commission de Recherche et d'Information indépendante, je ne suis pas sûr qu'il y ait un S, sur la radioactivité. Alors, je voudrais qu'on commence cette discussion avec vous trois sur cette votation qui a donc été lancée hier et pour une semaine par la France Insoumise. Je me tourne d'abord du côté de l'historienne Cézine Topchou. Est-ce que, de ce que vous savez, cette initiative est inédite ou pas en France ?
Non, elle n'est pas inédite. Il y a déjà eu des référendums citoyens en France, notamment en 1975. Lorsqu'il s'agissait en fait déjà des controverses, un débat donc très fort autour du programme électronucléaire français, puisque comme on le sait, en 1974, le gouvernement français donc lance son programme massif de tout électronucléaire.
Aujourd'hui, le plan Messmer.
Aujourd'hui, on en est à 75%, mais à l'époque, il s'agissait donc d'envisager une production de l'ordre de 100% à l'horizon 2000.
Donc il y avait eu une votation citoyenne à l'époque, ça avait donné quoi d'ailleurs ?
Oui, donc en fait il y a eu différentes initiatives, il y a eu notamment deux référendums locaux à l'époque, à Pau-la-Nouvelle et à Flamanville. Le deuxième a donné un avis favorable au projet de Flamanville et le premier un avis négatif. Il y en a eu un autre la même année à l'initiative de comité à l'époque SOS Golfech, qui a également donc apporté un avis négatif Ensuite, il y a eu notamment des sondages qui, à l'époque, à l'initiative des groupes citoyens, montraient, notamment de Sauvage, que 80% des Français voulaient un référendum sur le nucléaire.
Voilà, alors là, en tout cas, s'agissant des consultations que vous avez évoquées, il s'agissait de consultations locales. Là, on est dans une votation qui a vocation à couvrir l'ensemble du territoire. Jean-Pierre Pervez, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que c'est une bonne chose, finalement, que d'interroger la population sur ces questions? Et vous-même, peut-être, allez-vous participer comme électeur à cette votation?
Déjà, première réponse, je ne participerai pas. Et second point, je crois que je ne vais pas trop m'étaler sur cette question-là. Je ne crois pas beaucoup à des référendums de ce type-là sur des questions qui sont très clivantes, dans lesquelles on n'a pas beaucoup d'explicatifs, il n'y a pas une remise dans un contexte général. Et il est évident que dès qu'on va parler d'énergie, il y aura toujours des pour et des contre. Et c'est un équilibre entre tout ça qu'il faut trouver, et non pas des postures qui sont un peu des postures du style il faut plus, on n'en veut plus, ou il en faut 100%. Tout ça est aussi ridicule.
Donc faire un référendum sur un tel sujet, pour vous, ça ne serait pas une bonne idée.
Ça ne me paraît pas opportun et ça ne me paraît pas donner forcément une bonne information.
Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas d'un référendum, c'est-à-dire il n'y a rien d'officiel, oui. Mais il faut quand même rappeler que ça faisait partie des promesses d'un certain François Mitterrand lorsqu'il était candidat à la présidence de la République en 1981. Promesse numéro 38 dans laquelle on pouvait lire « Le programme nucléaire sera limité aux centrales en cours de construction en attendant que le pays réellement informé puisse se prononcer par référendum ». Michel Rivasi, je ne vous ai pas encore posé la question. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette initiative de votation sur le nucléaire? Et même question qu'à Jean-Pierre Pervès, allez-vous peut-être l'avez-vous déjà fait, y participer?
Écoutez, je trouve que c'est une bonne initiative parce que entre nous, il y a toujours une inadéquation entre le nucléaire et la démocratie. Tout à l'heure, on parlait du plan Messmer. Il n'y a jamais eu de débat démocratique et il n'y a jamais eu de, je dirais, de votation à la Suisse sur le choix du nucléaire. À l'époque, le nucléaire était sûr, il était pas cher, hein, et il était propre. Et on voit que il n'est pas propre, il n'est pas sûr puisqu'il y a eu tous les accidents et qu'il est très coûteux. Alors quand j'entends le représentant du CEA qui dit c'est ridicule, je n'y crois pas, mais voilà, c'est typique du nucléaire. C'est-à-dire que on ne demande pas à la population est-ce qu'ils sont prêts à avoir un accident nucléaire? Est-ce que il y a d'autres énergies qui sont beaucoup moins chères maintenant que le nucléaire? Ça se discute. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres énergies, notamment les énergies renouvelables? Et puis quand on nous dit que c'est propre, regardez toute la problématique des déchets radioactifs. On n'a toujours pas de solution aux déchets radioactifs, il y en a de plus en plus, ils sont très dangereux et ils vont impacter les générations futures.
En même temps, donc, Michel Rivasi, si on posait la question, êtes-vous prêt à avoir un accident nucléaire? On peut imaginer qu'il y aurait 100% de non. Hein. Je ne suis pas sûr que cette formulation-là pour un référendum serait
à l'époque,
tout à fait
quand il y a eu le plan Messmer, on nous l'a présenté comme une énergie sûre. Et maintenant, avec du recul, on voit bien qu'il y a eu Trim Island, il y a eu Windscale, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima. Donc je trouve que le choix de la stratégie énergétique française, c'est un... On doit justement instaurer un débat et on doit effectuer des référendums. Il y en a eu un référendum en Italie, suite à, justement après l'accident de Fukushima. Ben, les Italiens ont dit non. Et il y a eu l'arrêt du nucléaire en Italie. Je ne vois pas pourquoi, quand on fait des choix aussi importants pour une nation, eh bien, on ne demande pas l'avis des gens avec des débats experts contre experts. Il y a eu des votations en Suisse. Donc ça existe dans différents pays européens. Et je ne vois pas pourquoi en France, on n'instaurerait pas ce type de débat.
Ben peut-être
donc,
que Jacine Topchou, peut-être que c'est... Ah oui, pardon, vous irez voter.
Bien sûr que j'irai voter. J'aurais aimé que ça dépasse France Insoumise. J'aurais aimé que toutes les associations soient vraiment impliquées.
Bon, et là, que, il se trouve que c'est, voilà, c'est une initiative de la France Insoumise. Bon, ça n'empêche pas tout le monde d'y participer. Vous disiez, je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais été organisé de référendum. Peut-être que vous pouvez répondre à cette question, Jacine Topchou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de référendum sur cette question? Et pourquoi est-ce que des événements importants comme Tchernobyl, comme Fukushima, qui ont provoqué quand même aussi des débats et même des changements de politique dans certains pays, notamment on pense à nos voisins allemands, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu en France?
Il me semble que le référendum pourrait en fait aboutir à un résultat très direct. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu des débats institués, ils n'ont pas était vraiment suffisamment menaçant. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression historiquement qu'en fait, une ouverture sous forme de débat se limite vraiment dans l'Hexagone à des formes faibles. Ça, c'est, je pense, une des raisons pour laquelle un référendum ne pouvait pas avoir lieu. D'ailleurs, la promesse de François Mitterrand ne s'est même pas déclinée sous forme d'un débat national à l'époque, c'est-à-dire en 81. Il était réduit tout simplement dans un débat parlementaire. C'est-à-dire même un débat national était un tabou, on ne parle même pas de référendum, mais le premier débat national sur l'énergie en France n'aura lieu qu'en 2003.
Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de débats finalement et de débats politiques, selon vous, Jean-Pierre Pervès, sur cette question du nucléaire? Et en tout cas, pourquoi ça ne se traduit pas, alors si ce n'est par un référendum, mais en tout cas par de vrais débats de fond? Est-ce que ça veut dire que l'essentiel de la classe politique, à votre avis, est favorable justement à cette énergie? Que ça n'est plus quelque chose, en tout cas, qu'il s'agit de remettre en cause de manière globale?
Alors écoutez, si vous voulez, moi je suis obligé de dire qu'il y a eu énormément de débats. C'est essayer de remonter dans l'histoire. Alors ce sont pas des débats au sens référendum, avec tout son côté un peu rigide et un peu dangereux quelquefois, parce que ça devient un vote pour ou contre, Dieu sait quoi. Mais des débats, il y en a eu des tas. Il y en a eu au Parlement, il y a eu des enquêtes publiques de toutes sortes, il y a eu des débats publics, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Donc je pense qu'on est quand même dans une démocratie représentative. Ça a été largement traité, me semble-t-il.
Sauf que la sortie du nucléaire en soi, c'est pas quelque chose qui apparaît aujourd'hui dans le débat public.
Alors si vous voulez, bon, moi je suis toujours intéressé par l'aspect historique dont on vient de parler, mais moi je suis ingénieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation aujourd'hui et ce qu'on va faire dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Or, je suis obligé de faire un constat aujourd'hui. Quand Mme Rivasi parle des dangers du nucléaire, des déchets, etc., je peux quand même rappeler le rapport de l'Agence européenne de l'environnement, 2017, très récent. Que dit-il, ce rapport? C'est que, lié aux combustibles fossiles, il y a actuellement en Europe entre 400 000 et 500 000 décès prématurés tous les ans. Le même rapport dit que ce chiffre pour la France est compris entre 30 000 et 40 000, suivant les hypothèses. J'ai jamais entendu parler de chiffres pareils pour le nucléaire en France, et je dirais même à Fukushima. Donc, faut pas qu'on oublie le fond. Faut pas oublier la pollution urbaine.
Donc ça veut dire quoi pour vous, Jean-Pierre Pervez? C'est-à-dire, si on discute de la dangerosité du nucléaire...
Il faut tout comparer.
Il
faut tout comparer. Hein, et il faut faire la réalité. Et je dis, si aujourd'hui, en France, on a encore des épisodes de pollution forte dans nos villes, dans le Nord et dans l'Est, c'est souvent aussi lié aux centrales à charbon allemandes. Faut pas l'oublier, ou polonaise. Alors, donc, je dis bien, il faut revenir au global.
Alors, j'aimerais avoir l'avis de Michel Rivasi sur ce débat tel que vous le posez, Jean-Pierre Pervez. Est-ce que vous considérez que ce sont les bons termes, que c'est la bonne façon d'aborder la question du nucléaire, c'est-à-dire de le comparer aussi avec la dangerosité d'autres énergies, Michel Rivasi?
Mais d'abord, je voudrais répondre à votre première question. Pourquoi le nucléaire, il n'y a jamais eu de débat? Parce que, tel que on le voit bien dans ce qui est dit, le débat a été choisi par une élite, par le corps des mines. Et on voit bien que quand il y a eu le plan Messmer, c'est une élite qui a décidé pour le peuple. Alors par contre, il y a eu des sondages. Et les sondages ne sont pas favorables au nucléaire. Quand on demande aux gens, est-ce que vous seriez pour la sortie du nucléaire? Il y a une majorité de Français qui sont pour la sortie du nucléaire. Et quand il y a eu des débats...
Ça dépend des sondages, ça, Michel Rivasi, aujourd'hui.
La plupart des sondages sont...
Ils disent un peu tout et son contraire. J'ai regardé, moi, justement, et c'était difficile d'avoir quelque chose d'un peu stable, il m'a semblé.
Bah écoutez, on peut regarder les sondages un par un, mais enfin, d'une façon globale, ils ne sont pas très favorables au nucléaire. Et puis, il y a eu des débats. Moi, j'ai assisté en tant qu'expert à des débats sur, par exemple, le PR. J'ai assisté à des débats sur les déchets radioactifs. Et chaque fois, c'est des débats qui donnent des avis. C'est des débats gadgets. C'est pas du tout des débats, vous voyez, qui peuvent influer sur la stratégie sur l'énergie nucléaire. Alors après, on me dit, il faut comparer par rapport au nombre de morts sur, par exemple, la pollution de l'air. Mais c'est une pollution par rapport aux particules fines. Il ne faut pas prendre que le CO2, par exemple, quand on voit la programmation effectuée par RTE, ils prennent que le CO2. Donc moi, je dis, ok, on prend le CO2, mais aussi on prend les particules fines par rapport à l'impact sur la santé, mais il faut prendre aussi les déchets radioactifs et l'impact que ça peut avoir. Il faut prendre aussi les risques. Vous voyez, il faut avoir une stratégie globale et pas prendre qu'un élément. Parce que si vous prenez qu'un élément et que demain il y a un accident nucléaire en France, je veux dire, toute la population va être impactée et ça va être terrible. Et quand Mme Merkel, suite à Fukushima, a dit, moi en tant que physicienne, je ne voudrais pas en tant que politique porter la responsabilité d'un accident nucléaire en Allemagne, et je sais que maintenant il y a des alternatives et qu'on peut faire autrement, mais je décide qu'on va, avec d'ailleurs les industriels, on va arrêter le nucléaire. Alors c'est vrai qu'il y a une phase de transition, c'est vrai qu'il y a des centrales à charbon, mais ils sont quand même sur une stratégie pour sortir du nucléaire et en même temps aussi pour sortir du charbon. Alors plus vite ils sortiront du charbon, mais mieux ça sera par rapport à l'ensemble des problèmes.
Alors sur cette question de la dangerosité, je trouve ça intéressant. C'est une des façons de poser la question du nucléaire et d'en débattre aujourd'hui en France. Céline Topchou, donc vous qui vous êtes intéressé à la façon justement dont ça a été débattu et dont cette question nucléaire a aussi été prise en charge d'une forme de communication politique par les autorités, la notion de dangerosité, est-ce qu'elle a évolué dans la façon de faire débattre du nucléaire? Et quand il y a eu Fukushima, est-ce que c'est sur ces questions de sécurité des installations que les arguments se sont peut-être un petit peu ont peut-être été modifiés, en tout cas ont évolué?
Alors, historiquement, la question de dangerosité, ou en tout cas du risque nucléaire, a effectivement, du côté des promoteurs du nucléaire, très souvent posé en comparaison à d'autres risques. Aujourd'hui, on a entendu effectivement évoquer la pollution de l'air ou autre. À l'époque, c'est-à-dire au début du programme, on parlait du tabagisme, voilà, c'était des risques individuels, l'obésité. On en parle encore aujourd'hui à Fukushima, c'est-à-dire en fait, les dirigeants japonais ne cessent de répéter que finalement, le risque radioactif sur place est moins important que les risques liés à l'obésité, etc. Donc cette mise en comparaison est en fait un fait historiquement constitué, effectivement, c'est-à-dire un cadrage officiel de définir et de discuter des risques.
Ça veut donc dire qu'il y a bien acceptation de discuter des risques, mais ça veut dire qu'on discute...
Toujours en mettant un lien, c'est-à-dire toutes les discussions expertes autour de ces questions de risques nucléaires, de leur perception notamment, parce qu'en fait beaucoup de travaux ont tourné au début des années 70 sur la perception publique des risques. Donc en fait, il a été très tôt acté du côté des professionnels de l'opinion publique comme du côté des gestionnaires du risque. Il ne fallait absolument pas parler du risque nucléaire en tant que tel, mais qu'il faut toujours en mettre en perspective. Ça, c'est avec d'autres risques. Ça, c'est quelque chose donc, qui a plus ou moins bien marché parce que c'est un discours dominant encore aujourd'hui, en fait. Après, votre seconde question qui concerne est-ce que après Fukushima, on a suffisamment parlé de la sécurité? Est-ce qu'on a suffisamment parlé du risque d'accident? Je dirais qu'en tout cas, par rapport à l'époque de Tchernobyl, on a avancé du côté notamment de la manière dont l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a pris en charge la question. On peut estimer puisqu'en fait, il était question cette fois-ci de ne pas nier la probabilité d'un accident en France, comme c'était le cas à l'époque en 86, mais plutôt de dire ça peut aussi arriver chez nous. Donc une fois, Fukushima a, dans un premier temps, servi de miroir, en fait, pour repenser, effectivement, la sûreté des centrales en France et en Europe.
Dire oui, il peut y avoir des risques, mais...
Il peut y avoir un accident de ce type. Donc,
débattons peut-être de la façon de limiter, justement, que ces risques adviennent. Vous avez évoqué l'autorité de sûreté nucléaire. Est-ce que pour vous, Jean-Pierre Pervès, c'est d'abord vers ce genre d'institution, vers ce genre d'autorité qu'il faut se tourner pour avoir des informations, ou bien est-ce qu'il faudrait que l'information soit la plus totale possible, à la fois du côté des parlementaires qui, semble-t-il, n'en ont pas suffisamment puisqu'ils viennent de lancer une commission d'enquête sur la sûreté des centrales, et à la fois pour le public, parce que cette commission-là, elle est aussi motivée par le fait qu'il y aurait un déficit d'information du grand public sur toutes ces questions de sécurité liées aux centrales nucléaires.
Alors écoutez, moi j'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai passé 40 ans, j'ai été responsable de dizaines d'installations nucléaires de base, qui sont les installations les plus importantes. Et moi, le témoignage que je peux apporter, c'est que pour moi, la communication est extrêmement ouverte. En tant que patron d'un établissement nucléaire, le moindre incident est immédiatement public. Nous faisons nous-mêmes nos communiqués. Bien sûr, l'autorité de sûreté nucléaire. Il faut se souvenir que l'autorité de sûreté nucléaire en France, en comptant son expertise, c'est 2000 personnes qui nous surveillent en permanence. Quand on nous dit que des parlementaires lancent un nouveau... une nouvelle commission d'enquête. Je crois que ça peut se comprendre, parce qu'on sait qu'il y a énormément de nouveaux députés qui n'ont pas vécu le passé et qui sont jeunes. Mais il y en a déjà eu des quantités. Donc c'est rien de nouveau. Derrière ça, vous avez...
Ce que dit la députée qui a lancé ça, qui est Barbara Pompili, oui, députée de la République en Marche, elle dit la commission va permettre de rendre un certain nombre d'informations publiques, ce qui laisse entendre qu'il y a un certain nombre d'informations qui ne le sont pas, y compris pour les parlementaires.
Madame Pompili, de me connaissance, était une députée verte, au moins pendant un certain temps, donc ça ne me surprend pas qu'elle le demande et qu'elle affirme qu'il y a un manque d'informations. C'est pas du tout mon point de vue, parce que je suis obligé de constater que ce n'est pas nouveau du tout. Je suis obligé de constater que l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques s'est exprimé. Je suis obligé de constater qu'il y a en France maintenant des commissions locales d'information, une agence nationale des commissions d'information, il y a un commissariat à la transparence et à la sûreté nucléaire. Tout ça est regardé. Quand vous parlez de Fukushima, ce que j'ai vécu, moi, sur 40 ans de carrière, c'est qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas, et en particulier les accidents, il y a eu ce qu'on appelait, nous, le retour d'expérience, qui est en fait la prise en compte pour renforcer nos installations. Après Fukushima, il y a eu un travail considérable, effectué de la main dans la main, d'ailleurs, entre autorités de sûreté et exploitants, pour constituer le noyau dur. Aujourd'hui, la doctrine française, c'est qu'on ne sait pas imaginer Fukushima en France. On ne sait pas. On n'a pas de scénario qui l'amène. Mais on agit... Si ça se passait quand même, il faut qu'on n'ait pas besoin d'évacuer des populations. Donc aujourd'hui, on a profondément modifié notre manière d'être pour faire face à ça. Donc pour moi, je pense aujourd'hui, il faudra en informer peut-être les nouveaux députés, mais c'est une affaire qui est bien maîtrisée.
Michel Rivasi, est-ce que comme députée européenne, vous considérez qu'aujourd'hui vous avez suffisamment d'informations qui vous sont soit qui vous sont communiquées, soit qui sont accessibles pour justement débattre sur ces questions, ou bien est-ce qu'il y a une forme de rétention et de transparence insuffisante, disons, sur le sujet ?
Oh, mais il y a toujours un problème de manque d'informations. Moi, souvent, je vais sur le terrain. Vous voyez, Tchernobyl, j'y suis allée une dizaine de fois. À l'heure actuelle, il y a même le 5, il y a la commission qui vient avec moi. On va faire, si vous voulez, on a installé et on a rénové un hôpital. On suit 5000 gamins qui sont encore malades à l'heure actuelle suite à la contamination de Tchernobyl. Donc, vous voyez que l'accident n'est pas fini. Sur Fukushima, je m'y suis rendu plusieurs fois. Vous voyez comment les terrains sont contaminés. À l'heure actuelle, on force les populations à aller sur des terrains contaminés en leur enlevant leurs primes. Quand on me parle qu'on sait tout sur la sûreté, et effectivement, l'autorité de sûreté nucléaire a dit un accident majeur comme ceux de Tchernobyl, de Fukushima, ne peut être exclu nulle part dans le monde, y compris en Europe. Et pourquoi il y a cette commission d'enquête aussi ? C'est par rapport à la sécurité. Vous voyez, autant, moi, j'ai poussé à augmenter la sûreté des centrales nucléaires. Et quand on me dit le EDF a travaillé main dans la main avec l'autorité de sûreté nucléaire, ben regardez l'exemple du Tricastin. L'autorité de sûreté nucléaire a dû arrêter les 4 réacteurs de Tricastin parce qu'EDF n'avait pas fait son travail de renforcement des digues au niveau du canal du Rhône. Et vous voyez que là, ils sont allés jusqu'à arrêter la centrale. Donc, qu'on ne me dise pas, c'est la main dans la main, l'autorité de sûreté nucléaire pousse EDF à faire les travaux qui n'ont pas fait suite justement à l'évaluation de Fukushima. Et sur la sécurité, c'est quelque chose de nouveau. Parce que suite au terrorisme, il y a eu un film qui est sorti, le film d'Éric Guéret, qui indique bien qu'on n'a pas pris la dimension du problème du terrorisme. Regardez les piscines de stockage du combustible. C'est juste une tôle qui est au-dessus de ces piscines de stockage. Et avec l'augmentation des drones, c'est un risque énorme. Regardez les militants de Greenpeace. Ils arrivent à rentrer dans une centrale nucléaire, à être devant les piscines pour dire « voilà, il y a danger, c'est vraiment des passoires ». Centrales nucléaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les met en prison parce que ce sont des lanceurs d'alerte. Et plutôt que de donner l'alerte pour que les EDF renforcent la sécurité de ces centrales, eh bien, on les met en prison. Vous voyez bien que sur le problème de la sécurité, du risque d'un attentat, d'une cyberaction ou d'autres problèmes, eh bien, on n'est pas vraiment. On a absolument pas de garantie que demain, il n'y aura pas un risque d'explosion. Et c'est ça qui me fait très peur. Vous voyez, moi, plus je connais les centrales nucléaires, plus je vais sur le terrain, plus je me dis que si on continue dans le nucléaire avec la problématique des déchets, eh bien, on aura un pépin plus tard. Et ça va se reporter sur qui ? Sur nous, population. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir accès à l'info et à un moment donné, que ça soit la population qui décide en étant correctement informée.
Alors, on n'en est pas encore là, hein, pour savoir en tout cas que de faire décider la population sur sortir ou pas du nucléaire, en finir ou pas avec le nucléaire. On a évoqué la question de la sûreté, de la sécurité des installations. Il y a un autre débat actuel qui est très important, qui touche aussi d'ailleurs à la sécurité, mais dans un autre registre, c'est celui autour du centre industriel de stockage géologique de Bure. Débat national, là aussi, un débat national va avoir lieu de septembre à décembre prochain sur la gestion, il s'agit de gérer les déchets nucléaires. C'est une annonce qui a été faite mercredi dernier. Est-ce que là aussi, Céline Topchou, c'est la première fois qu'on va avoir un débat national sur cette question, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu ? Et si oui, à quoi ça sert d'en faire un nouveau ?
Non, ce n'est pas du tout la première fois. En 2005-2006, donc il y a eu déjà le débat sur les déchets radioactifs qui a été mené par la Commission nationale du débat public. Un débat qui était plutôt bien accueilli parce que, encore un débat consultatif, mais en fait, les avis citoyens ont été correctement rapportée dans le rapport du rapporteur. Ensuite, il s'agissait en fait de suivre à la fois les voies de entreposage, pas seulement de stockage, et il s'agissait aussi de prendre en compte en fait la demande pour la reversibilité des déchets en fait qui était exprimée donc par les citoyens à l'époque. Ensuite, il y a eu le débat plus précisément sur le projet CIGEO donc au printemps 2013, qui lui ne s'est pas du tout passé de la même façon. Il a été complètement boycotté, il a été arrêté, il n'a pas pu se tenir, qui a été remplacé par en fait d'abord un débat en ligne, puis ensuite une conférence de citoyens, mais voilà, qui n'a pas bien marché.
Maintenant... À ce sujet d'ailleurs, c'est une top show. Je voudrais juste vous faire entendre à tous les trois la façon dont on parlait de ce débat. Alors, en juillet 2013, c'est-à-dire il y a eu quelques tentatives d'organiser des discussions, c'était dans le cadre de la Commission nationale du débat public. Effectivement, comme vous le disiez, ça a été très compliqué. Écoutez ce compte-rendu de Nathalie Fontrelle de France Inter.
C'est un débat maudit. Chaque réunion publique a tourné court au son des cris des opposants et de l'odeur des boules puantes. Ils estiment ce débat inutile puisque le Parlement a décidé d'enfouir les déchets radioactifs. Les réunions prévues ont été annulées, mais le débat va se poursuivre sur Internet. Claude Bernet est le président du débat.
Il faut absolument organiser un débat public. C'est la loi et c'est pourquoi nous avons recouru à ce moyen innovant. Cela dit, si un certain nombre d'opposants décide d'arrêter de bloquer les débats publics, la Commission nationale m'a demandé de les réorganiser.
Certains opposants attendaient beaucoup du débat public, une formidable machine médiatique qui aurait pu leur permettre d'exposer leurs arguments. C'est le cas du président de l'association La Qualité de Vie. Michel Guérit pense que l'outil Internet ne permettra pas de mobiliser les citoyens.
Au niveau national, on peut quand même imaginer qu'il y a du monde pour aller sur Internet. Par contre, dans la Haute-Marne et la Meuse, il n'y a pas Internet dans une famille sur deux, quoi, déjà. Les jeunes jouent avec Internet, pas les anciens. Et les jeunes se foutent complètement du problème de l'enfouissement des déchets.
Voilà, reportage qui date du 11 juillet 2013. Nous étions dans cette tentative d'organiser un débat public sur la question de la gestion des déchets nucléaires. Michel Rivasi, dans ce qu'on vient d'entendre, il y avait des opposants qui étaient pour ce débat, mais on a bien compris qu'il y en avait d'autres qui étaient contre et qui ont quand même contribué à l'échec de ce débat. Est-ce que c'est pas aussi un problème en France que d'avoir finalement un cadre qui permet de discuter du nucléaire, mais que ceux qui s'y opposent ne jouent pas toujours le jeu du débat?
Mais parce qu'il n'y a plus de confiance. Pourquoi, franchement, lancer un débat national sur Bure, alors que les gens savent pertinemment que le choix est déjà fait?
C'est pas ce que dit Nicolas Hulot, pardonnez-moi. Au Figaro, il dit « Bure est un laboratoire, pas encore un centre de stockage. L'autorisation du projet n'est pas acquise. Le dossier ne sera déposé qu'en 2019. » Je cite Nicolas
alors
Hulot.
Alors moi, j'interpelle Nicolas Hulot et je lui dis « Si ce débat peut être intéressant, il faut qu'il y ait des alternatives au stockage souterrain. » Et je lui renvoie la balle en disant « Voyez, moi j'ai été député à l'Assemblée nationale, donc ce débat je le connais depuis longtemps. On avait dit il faut trouver des solutions alternatives de stockage en surface, en subsurface. On a mis tous les moyens sur le stockage en grande profondeur. Donc si Nicolas Hulot me dit « on va essayer de voir » où on peut stocker en subsurface ou en surface en France pour trouver des alternatives. Alors là, je dis, ok, on organise un débat et on demande à trouver des lieux de stockage et d'entreposage de déchets radioactifs. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est Bure. Alors on va faire quoi? On va discuter du nombre de mètres cubes qu'on va mettre à plus de 500 mètres de profondeur, sachant que d'un point de vue international, moi je suis allé aux États-Unis à WIPP, et bien WIPP, ça a dysfonctionné parce qu'il y a eu à la fois une incendie, une explosion, et là c'était des déchets nucléaires, militaires, où toutes les précautions avaient été prises. Je suis allé à Haas, en Allemagne, où là c'était dans des mines de sel, et bien il y a des infiltrations d'eau, et maintenant les fûts sont dans de l'eau. Après vous avez en Suède, là c'est d'un point de vue juridique, ils ont dit non, on n'a aucune garantie que ces fûts vont résister pendant des milliers d'années contenant des déchets radioactifs. Tous les sites dans le monde en grande surface sont, si vous voulez, n'ont pas atteint les objectifs. Et maintenant, nous, on veut organiser un débat à Bure pour dire, ah ben voilà, il y aura un simulacre. Et c'est très grave ce qui est en train de se passer en France.
Je voudrais voir justement l'avis de Jean-Pierre Pervez justement sur cette question. C'est vrai que pour aller un petit peu dans le sens quand même de Michel Rivasi, on se demande à quoi ça va servir ce débat national, alors que le choix du site de Bure, il n'est pas tout récent, hein, ça remonte à 1998, je crois, donc ça fait fait quand même déjà 20 ans, même si Nicolas Hulot dit, bon, c'est pas tout à fait correcté, mais ça va servir à quoi de débattre de la gestion des déchets nucléaires alors qu'on sait où ça va se passer et a priori de quelle manière ça va se faire?
Si vous voulez, je crois que ce que vous nous avez fait entendre de Nathalie Fontrelle montre bien que le système est quasiment impossible avec une opposition qui est violente. Je rappelle que sur les sites de subsurface, il y en avait qui étaient prévus.
Radicale, violente, ah, oui, c'est peut-être
beaucoup dire. Non, violente. Je rappelle que sur les sites de subsurface dont parle Madame Rivasi, il y avait eu un projet qui a été arrêté parce qu'il y avait eu des menaces physiques contre les conseillers municipaux qui acceptaient que les études soient faites sur leur commune. Donc, il faut quand même avoir ça derrière la tête.
Bon, en dernier lieu, ça n'a pas dissuadé les autorités de refaire un débat.
Non, mais en dernier lieu, je ne veux pas être très long et m'étaler sur un tas de choses. Moi, je dis clairement, M. Hulot, il y a un mois, a dit, alors à sa manière, la moins mauvaise des solutions. Ce que moi, je vais traduire, c'est la bonne solution. Et je rappelle que un pays très démocratique comme la Suède a décidé de faire comme nous, en profondeur, que la Finlande fait de même, que les Allemands sont en train d'y revenir. Donc, contrairement à ce que vous dites, cette solution est une solution qui est assez généralement admise comme la meilleure, car elle ne reporte pas sur les générations futures la responsabilité.
Je conteste pas forcément ce que vous dites, hein, Jean-Pierre Pervès. Moi, j'ai pas forcément les informations pour en juger. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est vraiment la solution qui pour vous s'impose, ça sert à quoi d'en débattre?
Moi, je crois que de toute façon, ça a été débattu en beaucoup d'endroits. Je rappelle qu'il y a une commission d'évaluation. Je rappelle qu'il y a l'office parlementaire. Je rappelle qu'il y a eu des votes d'une loi qu'il prévoyait. Alors qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de débat. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui faire des enquêtes publiques sur des sujets aussi complexes? Moi, je laisse les politiques en juger. Ça me paraît très difficile.
Cézine Topchour, on a l'impression, mais vous allez peut-être me contredire, qu'il y a quand même un certain nombre de cas en France où quand on débat du nucléaire, la décision a de toute manière déjà été prise avant. Est-ce que c'est le cas? Et du coup, ça sert à quoi d'organiser ces débats?
Historiquement, effectivement, ce qui se figure, c'est-à-dire, on prend le débat EPA de 2005-2006, il a lieu après l'annonce gouvernementale de la décision déjà de construire l'EPR à Flamanville. C'était le cas également, comme on l'a dit, du débat parlementaire de 76, c'est-à-dire, il venait simplement de 75, il venait simplement entériner un choix donc massif du nucléaire massif, et idem pour les débats parlementaires qui ont suivi après. Donc, effectivement, il y a un historique de méfiance qui s'est construit et qui explique que les débats puissent aussi être sabotés puisque ne répondant pas en fait à des règles élémentaires, en tout cas déontologiques.
Mais est-ce qu'ils ont quand même une utilité ces débats? C'est-à-dire est-ce qu'ils permettent au moins, même si la décision est déjà prise, de peut-être faire mieux accepter les décisions justement qui ont été prises? Est-ce qu'ils sont pensés comme ça ces débats?
Quand il se déroule bien, c'est-à-dire sans dérailler, sans boycott, etc., effectivement, ça peut servir à ça. Ça a pu servir à ça dans certains cas. Mais par contre, quand il y a une impossibilité de débattre, c'est dans ce cas-là, en fait, aussi au crédit, finalement, des opposants que ça va venir. C'est-à-dire que ça va permettre de mieux médiatiser. Après, pour le débat CIGEO de 2013, quand même, je pense que quand on parle de la violence, il faut aussi parler de la violence en termes citoyens, de l'absence, est-ce que c'est logique dans un pays démocratique, de l'absence des informations importantes, notamment relatifs au coût du projet, relatifs à des aspects de sûreté qui n'ont pas été, enfin tous les éléments n'ont pas été mis sur la table aussi au moment de ce débat.
Jean-Pierre Pervès n'a pas l'air tout à fait d'accord.
Oh ben non, c'est sur les prix, il y a pu y avoir des évolutions, la technique a évolué. Je suis désolé, les chiffres ont été sur la table, les chiffres ont été présentés à l'office parlementaire, etc. Moi, je suis un peu désolé de ce qui se passe parce que là, on rentre encore dans ce que j'appellerais la canule des débats. Bas pour ou contre le nucléaire. La réalité que je vois moi aujourd'hui, c'est que la transition énergétique à la française, elle est en train d'échouer. La réalité, c'est que les seuls gains qu'on a eus en gaz à effet de serre et en termes climatiques, ils sont liés à la désindustrialisation de la France, ce qui est terrible. Le constat que j'ai, c'est que les deux tiers des contraintes environnementales qu'on a, qui sont liées aux bâtiments et aux transports, aujourd'hui, c'est zéro comme résultat. Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne à la réalité du débat, qui est: pourquoi faire le nucléaire? Le nucléaire est une énergie non carbonée.
Alors, la transition énergétique, puisque vous l'évoquez, Jean-Pierre Pervez, ce sera le dernier thème de notre discussion, puisqu'il nous reste à peine 5 minutes pour avant la fin de l'émission. Elle est organisée par une loi qui s'appelle la loi de transition énergétique, qui prévoit qu'on remette régulièrement sur le tapis, disons, les principaux objectifs pour prévoir notamment ce que sera le mix énergétique de la France. Dans ce mix énergétique, il y a le mix électrique, dans lequel aujourd'hui le nucléaire représente 75%. L'idée, c'était d'arriver à 50% d'ici 2025.
25, oui.
Et puis, il y a un débat public national qui va être organisé à partir de lundi prochain et jusqu'au 30 juin sur la PPE, la programmation pluriannuelle d'énergie. Et là aussi, je vous pose... C'est toujours un petit peu la même question ce soir, mais comme il y a un certain nombre de débats, Michel Rivasi, à quoi va servir ce débat? Est-ce que l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on va fixer les grands objectifs pour la période 2018-2023 en se disant, en 2023, on devrait avoir tel pourcentage de nucléaire dans le mix électrique et on devra avoir fermé tant de réacteurs. Est-ce que c'est à ça que ça doit servir en tout cas?
Normalement, ça devrait servir à ça, mais regardez, c'est quand même inscrit. Quand il y a eu un vote, et là c'est démocratique, ça, il y a eu un vote sur cette loi en 2015, c'était la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50%. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah mais non, ça ne pourra pas être fait en 2025, on va le reporter en 2035. Donc ça veut dire que la loi n'est pas respectée. Et quand tout à l'heure on parlait du manque de confiance, c'est, vous voyez, on annonce des choses, on doit élaborer une stratégie, et même dans la consultation qui va être faite à partir du 18 au 19 mars, il y avait différents scénarios. Eh bien, on a enlevé le scénario qui demandait à ce que en 2050, on soit à 100% pratiquement d'énergie renouvelable. Donc, les gens, si vous voulez, la confiance, ça se construit, une confiance. Et là, quand je vois que la loi sur la transition énergétique n'est pas respectée, c'est l'État qui ne respecte pas le droit. Et alors, après, il ne faut pas s'étonner que des gens, vous voyez, boycottent des commissions nationales de débat public, boycottent des lieux où on pourrait trouver de l'information, parce qu'ils n'y croient plus. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que quand il faut retrouver la confiance, où on ait accès aux données, tout à l'heure, on parlait du coût, même la Cour des comptes, elle est, vous voyez, sur le coût, par exemple, de Bure, ben, il disait peut-être que c'est entre 20 milliards et peut-être 35 milliards. Vous voyez, la fourchette qui est énorme, parce qu'on n'a pas accès à tous les domaines. Regardez sur l'EPR, au début on nous disait ça coûte 3 milliards, on est à plus de 10 milliards, si c'est pas plus pour l'EPR. Donc, voyez, on nous gruge sur toute la ligne. Et alors après on nous dit, mais il faut accepter le nucléaire tel quel, mais c'est pas possible. Moi je trouve que, moi je comprends les gens, si vous voulez, ils ne supportent plus ça. Alors deux choses l'une, soit on fait un débat en amont, on met toutes les cartes sur table, on met toutes les études, on met tous les rapports sur la sûreté, sur la sécurité, sur le coût, sur les risques, vous voyez, tous les éléments, et à ce moment-là, il y a un vrai débat démocratique, soit si c'est on décide et on fait des débats gadgets, eh ben les gens ils veulent plus y participer. Et c'est la fin de la démocratie.
Un vrai débat démocratique, est-ce qu'aujourd'hui, Céline Topchaud, au regard de ce qu'a été l'histoire du nucléaire en France, du nucléaire civil, hein, parce qu'on n'a pas parlé du nucléaire militaire, mais ça mériterait une autre émission, même si évidemment les deux sujets sont liés, mais est-ce que vous diriez, avec votre regard d'historienne, qu'il y a eu un déficit peut-être de démocratie sur cette question-là?
Un déficit démocratique, il y en a, comme on l'a déjà évoqué. Il y a des problèmes de cadrage, de contre-cadrage. Il y a des stratégies de fragmentation de débats qui sont très, très importantes dans l'histoire du nucléaire français. Et pour revenir à l'enjeu de transition et en fait à ce qui a été décidé en novembre donc par le ministère de l'Environnement, à savoir donc de retarder la baisse à 50% du nucléaire, en fait, il faut peut-être rappeler le fait que un des arguments principaux avancés était de dire parce qu'on ne pourra pas sinon faire face à la menace climatique. C'est-à-dire, on revient encore à un cadrage qui était cher à l'époque pré-Fukushima. C'est-à-dire, le nucléaire va sauver le climat. C'était ça le discours d'avant. On est en train encore de complètement noyer en fait la question de la catastrophe, toute la question de la normalisation de Fukushima, d'ailleurs massive, hein, sur place, et l'oubli même de Fukushima et toutes ses conséquences, les 200 000 évacués des territoires contaminé à jamais pour des millions d'années, des millions de mètres cubes de déchets à gérer, etc.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. J'aurais bien aimé vous redonner encore la parole, Jean-Pierre Pervès, mais bon, voilà, l'émission est terminée. Je renvoie à votre ouvrage, Cézine Topchou, La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée. C'est un ouvrage que vous avez publié, c'était en 2013 au Seuil. Bah, peut-être qu'avec tous les nouveaux débats en cours, ça méritera une réédition. Merci à Jean-Pierre Pervès d'avoir participé à cette discussion et à Michel Rivasi. J'en profite pour remercier également le personnel du Parlement européen à Strasbourg, depuis lequel vous interveniez en duplex. Merci également à l'équipe du Grand, Antoine Tricot, Fanny Richer, Isolde Sica, Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Jacques Hubert. Dans 3 minutes, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte.
Absolument, nous allons parler de théâtre ce soir, Hervé Gardet. Nous allons parler de Périclès, prince de Tyr, de Elle, de Jean Genet, et de The Prisoner, de Peter Brook, et dans Du Grain à Moudre, de Malherbe Gardette.
On va parler de télé, ou plutôt de l'après-télé. Est-ce que la guerre de l'après-télé a déjà commencé? La réponse est oui.
Oui, il me semble, mais hein, vous allez nous
expliquer qui va la gagner
pourquoi depuis pendant 40 minutes demain. Merci beaucoup, Hervé Gardette. Vous écoutez France Culture. Il est 19h, l'heure des titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.